Alors le texte que nous allons commenter se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 20, versets 19 à 23. En voici la lecture. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle, et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Alors je vous propose de faire un commentaire linéaire de ce texte, toujours en utilisant les quatre sens traditionnels qui sont sens littéral ou historique quand l'histoire a un intérêt pour la compréhension du texte. Et puis après, il y a les trois sens spirituels comme nous allons le voir. Alors, c'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Donc, ce texte intervient, eh bien, le soir de, le dimanche soir. C'est le soir de la résurrection du Christ. Et le dimanche, les premiers chrétiens, comme il l'est toujours dans l'Église, est un jour à part, le nouveau sabbat. C'est le jour du Seigneur. C'est-à-dire le sens du sens dimanche. Et cette apparition de Jésus va se dérouler un dimanche, ici en plus le soir de la résurrection. Et ce n'est pas un hasard, parce que quand on voit un petit peu dès les premiers temps de l'Église et dans le judaïsme, il y a ce qui s'appelle, on va dire, le calendrier liturgique. Dieu veut habiter notre espace, mais aussi notre temps. Il veut faire de nos années des fêtes, etc. Hein, on le voit avec toutes les fêtes, les Noémies, les Pentecôtes, parce que c'est d'abord une fête juive, la fête des tentes, etc. Puis nos fêtes chrétiennes, bien sûr, centrées sur la naissance et la résurrection du Christ. Et donc, c'est une manière de nous montrer que le Seigneur veut habiter notre temps, il veut être dans nos vies, d'une manière toute personnelle, et il y a un très grand danger à divorcer, si j'ose dire, notre vie quotidienne de notre foi. Le Seigneur veut être dans tous les aspects de notre vie, non pas comme un tyran, mais comme un ami qui veut nous guider pour vivre plus pleinement notre vie quotidienne. Et puis, habiter notre temps, ici aussi, le Seigneur va apparaître à un moment fixé, qui ici, le dimanche, symboliquement, le moment de la prière. Et c'est intéressant de voir que les disciples vont faire une expérience spirituelle quand ils vont consacrer un temps spécifique de prière au Seigneur. D'ailleurs, ils étaient verrouillés entre eux, bon ici ce qui n'est pas forcément flatteur, mais c'est aussi une manière de nous montrer qu'ils étaient dans une période de solitude, de retranchement, qui ici peut aussi équivaloir à ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, le désert, un moment de recueillement. Et je crois que nos moments de prière ne sont pas quelque chose de superflu. Si nous voulons vraiment avoir une bonne vision de la signification de ce qui arrive dans nos vies, pour prendre des décisions par rapport à notre vie quotidienne, dans ce monde visible dans lequel nous vivons, il faut savoir aussi nous retirer, comme le dit Jésus en Saint Matthieu, fermer sa porte, hein, comme les disciples ici avaient verrouillé les portes, et se mettre à l'écoute du Père et aussi lui parler. Être conscient, devenir conscient de cette présence du Père qui est là dans le secret. Parce que c'est dans ces moments que nous allons avoir une autre vision plus profonde et la véritable signification de ce qui arrive. Et c'est justement par ces prières, par ces méditations de la parole, que nous pourrons faire nôtre ces paroles de Paul dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, qui dit que tout se joue dans l'invisible, que les vrais combats sont dans l'invisible. Et c'est comme ça que nous comprendrons ce qui peut nous arriver, ce qui arrive aux autres, ce qui nous permettra d'avoir du recul et de prendre les bonnes décisions. Donc, revenons au texte. C'était après la mort de Jésus le soir du premier jour de la semaine. Notons aussi que Jésus n'attend pas très longtemps. Dès le soir de sa résurrection, il apparaît. On avait parfois l'impression que le Seigneur met nos nerfs à bout, notre patience à bout, mais le Seigneur fait le plus vite qu'il peut, compte tenu des réticences qu'il y a dans notre monde et dans nos propres cœurs. Donc le texte nous dit, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Eh bien, ici, finalement, le sens littéral du texte n'était pas verrouiller les portes dans un sens de recueillement, mais c'est plutôt un sens négatif. Et très souvent, malgré notre foi, ou alors encore pire, pour les gens qui n'ont pas la foi, la peur domine. L'homme et surtout dans notre siècle, est un homme de peur. Nous avons peur de tout, et c'est très flagrant d'ailleurs quand on voit la peur des épidémies, la peur d'être malade, la peur d'être au chômage, la peur de manquer d'argent. Et dans nos vies, nous aussi, nous avons tellement peur de tout. Alors, la tentation, c'est de se renfermer et, comment dire, de ne pas faire ce que la foi chrétienne nous demande, mais nous ouvrir sur les autres. C'est très symptomatique que les religions orientales sont des religions finalement de la peur. Parce que qu'est-ce que nous demande notamment l'hindouisme, le zen, etc., c'est vraiment de nous renfermer sur nous-mêmes, pour établir une espèce de tour d'ivoire pour nous blinder contre la souffrance. C'est tout le sens du bouddhisme d'ailleurs. Alors, ici, cette tentation, ben, les disciples, ils cèdent. Donc, ils verrouillent les portes et ils ont l'impression d'être seuls. Voyez, ça me fait penser à Jésus quand il marche sur les eaux et qu'il dit à Pierre de venir. Pierre commence à couler quand il quitte Jésus du regard et commence à remarquer qu'il y a du vent de part et d'autre. Et là, les Juifs, c'est vraiment le symbole de toutes ces circonstances extérieures, de tous ces obstacles, de tous ces soucis qui peuvent nous accaparer et qu'il nous faut quitter du regard le Seigneur. Alors Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Alors, c'est une très belle révélation parce que dans nos peurs, au creux de nos peurs, en plein milieu de nos angoisses, Jésus est là. Et il vient. Il s'incarne encore tous les jours dans nos vies. Et malheureusement, si nous avons peur, c'est parce que nous n'avons pas assez les yeux pour le voir. Peut-être que nous ne faisons pas assez de dimanches dans nos vies, assez de temps de prière. Parce que c'est justement le sens des temps de prière, c'est de pouvoir discerner mieux cette présence, cette venue de Jésus. Et il était là au milieu d'eux. Donc Jésus est là au milieu de nous, au milieu de nos soucis. Jésus est là au milieu de nos combats intérieurs aussi. Il habite déjà notre cœur. Et aussi parfois nos frères qui sont loin de Jésus, nous essayons de les amener à Jésus par notre amour, par notre prière. Mais Jésus est là, au milieu de leur cœur. Ça doit être pour nous aussi un sujet de réconfort, même si cela ne se voit pas. Jésus est là. Il est dans nos cœurs, malgré nos tentations, nos faiblesses. Il est dans nos vies, il est dans la vie de nos frères. Il est aussi au milieu de ce monde, malgré les apparences. Et Jésus leur dit, donc aux disciples, la paix soit avec vous. Et après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Jésus va dire deux fois, la paix soit avec vous. Comme s'il fallait qu'il le redise une deuxième fois pour que ça fasse de l'effet. Jésus agit par touches successives. Il y a souvent deux à trois temps dans l'action du Christ. La première, il se passe en apparence rien du tout. Donc Jésus leur dit, la paix soit avec vous. On sait très bien. Nous-mêmes, nous avons cette tendance à dire, la paix soit avec vous. Bon, on sait que Jésus est là, on nous le dit, on en a conscience. Enfin non, on le sait intellectuellement, mais on ne le saisit pas pleinement. On ne saisit pas sa présence parce qu'on ne prend pas le temps de se mettre en présence de notre Seigneur. De même, dans notre vie, hein, je disais tout à l'heure, il est au milieu de nous. On dit souvent, ah bon, Jésus, bon, au ciel, on le verra pleinement, mais dans cette vie, eh bien, on galère comme on peut. Mais Jésus est là, déjà. Certes, c'est un peu comme dans l'Eucharistie, c'est sous des apparences bien faibles, mais il nous faut ce regard. Jésus nous le dit, la paix soit avec vous. Jésus est là pour nous apporter la paix. Et il faut vraiment le croire, parce que la parole du Christ, comme le dit Jésus dans Jean chapitre 6, mes paroles sont vie et vérité. Donc il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Le Seigneur donc leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce qui va enfin déclencher la joie chez les disciples et chasser leur peur, c'est de se rendre compte que le Seigneur, eh bien, Il a encore ses mains et son côté transpercés. Finalement, le Seigneur, c'est le même que celui qu'ils ont connu, c'est-à-dire celui qui porte les marques de son amour. Le Christ, ce mode d'action, la parole même du Père, qui est donc le mode d'action de Dieu même, c'est l'amour. C'est celui qui va se donner, qui va prendre sur lui tous nos problèmes. C'est donc l'antidote de l'indifférence. Et il va vraiment, par son amour, par ce partage de nos douleurs, eh bien, s'identifier à nous et nous communiquer sa vie. Eh bien, quand on en prend conscience, quand on prend conscience que, certes, il y a des lenteurs dans nos tentations, dans nos tourments intérieurs, chez nos frères qui, a priori, ne s'ouvrent pas au Seigneur, rien ne semble bouger en ce monde, cette vie où nous sommes englués dans le monde visible, où le ciel semble très loin, eh bien, si nous nous rendons compte que c'est normal, c'est parce que c'est le mode d'action même de Jésus qui agit avec discrétion, mais son efficacité est à la mesure de sa discrétion, de son amour, alors tout d'un coup, au lieu de perdre patience et de désespérer, nous rendons compte que c'est normal. Jésus a tout sous contrôle. C'est parce qu'il travaille par l'amour qu'il faut un temps de latence. Et alors nous sommes dans la joie parce que toutes ces périodes où nous avons beau prier, nous avons beau faire des efforts sur nous-mêmes, ou prier pour nos frères, faire des efforts pour les aimer, les pardonner, avec l'aide du Seigneur, bien sûr. Nous essayons de faire des efforts d'évangélisation, d'être au service de l'Église et rien ne se passe. Mais c'est normal. C'est parce que Jésus travaille. C'est ce Jésus qui est à la croix, c'est ce Jésus qui, avant de ressusciter, doit passer par la croix, doit passer par cet échec en apparence totale, mais qui va déboucher sur cette grande victoire qu'est la résurrection. Eh bien, si nous prenons conscience que le mode d'action de Jésus, c'est cet amour même qui justifie cette espèce de silence apparent, ce temps de latence, eh bien, alors nous sommes dans la joie parce que nous nous rendons compte que Dieu agit lentement, mais sûrement. Et après, donc, Jésus dit aux disciples, pardon, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors, quelle responsabilité, mais aussi quel honneur. Merci Seigneur. Nous sommes le prolongement, c'est ce que dit Paul d'ailleurs, de l'action du Christ en ce monde. Hein, Paul dit, je ne sais plus si c'est Galate, ça doit être l'épître aux Galates, où il dit qu'il complète en lui ce qu'il manque aux souffrances du Christ, c'est-à-dire là où nous sommes un Christ. Une icône du Christ, ce que dit Jean-Paul II, nous sommes une icône du Christ, et donc, par notre mort à nous-mêmes, au lieu de prendre des moyens visibles ou par la force, quand nous préférons l'amour, tendre l'autre joue, la prière, accompagnée de l'amour, plutôt qu'utiliser la force et les apparences, eh bien, quand nous faisons cette espèce de sacrifice à nous-mêmes pour le bien de nos frères ou pour nous-mêmes, quand nous préférons une solution qui n'est pas la solution de facilité, parce que nous savons qu'en profondeur, tel effort appuyé par la prière sera source de vie, eh bien, on est comme un prolongement du Christ et on est comme les envoyés du Père. Pour sauver notre moi intérieur, pour sauver nos frères, pour sauver ce monde. Et alors Jésus, ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Nous ne sommes pas seuls. Hein? Il faut faire très attention parce que quand je dis que nous sommes des prolongements du Christ, donc quand par nos efforts, quand par notre amour, etc., nous prolongeons l'action du Christ, mais nous avons l'Esprit Saint, nous avons la force même du Christ, son souffle, sa vitalité qui nous habite. Alors moi, ce qui m'étonne aussi, c'est qu'on parle de la Pentecôte comme étant 50 jours après Pâques, effectivement, c'est là où va se manifester pleinement, dans le deuxième chapitre des Actes des Apôtres, cette venue de l'Esprit Saint. Mais 50 jours avant, le Christ souffle déjà. Et vous voyez, il y a comme un temps de latence de 50 jours entre le moment où l'Esprit Saint est donné aux apôtres, mais il va falloir qu'il fasse son chemin dans leur cœur pour qu'enfin il puisse se manifester pleinement 50 jours après. Et là, nous avons une pédagogie de Dieu, nous avons une révélation importante, ce que j'ai déjà signalé enfin, plus tôt dans ce commentaire. Les choses se passent dans la douceur. Vous savez, l'Esprit Saint, c'est le souffle, c'est le vent, mais comme dans Isaïe, pas Isaïe, pardon, comme dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, vous avez Élie qui se rend compte que Dieu n'est pas dans le tonnerre, n'est pas dans l'ouragan, dans le tremblement de terre, mais dans un fin frémissement de vent, eh bien c'est ça le souffle de l'Esprit, il souffle où il veut, mais c'est une légère bise, une légère brise rafraîchissante, comme dans la Genèse où Dieu se promenait, comment dire, sous une brise rafraîchissante, Genèse chapitre 2. Eh bien, vous voyez, l'Esprit souffle en douceur, comme un bateau, il va nous conduire. Il faut du temps. Il faut du temps pour que dans nos cœurs, telle ou telle prière fasse enfin son effet, que tel ou tel défaut soit vaincu à force de prières et d'efforts, qui sont d'ailleurs comme eux-mêmes soutenus par notre prière. Il faut beaucoup de temps pour que nos frères s'ouvrent à la grâce de Dieu, avec l'amour que nous leur manifestons grâce au souffle de l'Esprit, mais grâce à ce souffle de l'Esprit qui nous porte dans notre intercession pour eux. Il faut aussi du temps entre les deux venues de Jésus, sa première venue et son retour. Eh bien, il faut beaucoup de temps. Hein, c'est devenu de l'Esprit. Mais c'est normal, parce que si Dieu ne respectait pas ce temps de latence, nos résistances, etc., il ne serait pas amour, il n'y aurait pas respect de nos libertés. Alors Jésus a prédit, tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis, et tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Alors là, c'est intéressant parce que nous connaissons cette interprétation, qu'on appelle des fois interprétation plénière. Ça ne veut pas dire que c'est la plus juste, mais c'est celle reconnue officiellement par l'Église. Il faut savoir que l'Église ne donne pas, comme les témoins de Jéhovah, une interprétation officielle pour chaque verset de la Bible. Nous sommes libres, sous le souffle de l'Esprit, sous certaines conditions, de notre interprétation personnelle de la parole de Dieu. Et ce même dans l'Église catholique, parce qu'on croit que c'est le privilège des protestants. Nous avons la tradition, ici par exemple un exemple, l'Église a une interprétation officielle qui ne contredit pas d'autres interprétations, et nos interprétations plus personnelles de ces versets que je viens de lire sont tout à fait valables dans la mesure où ces interprétations ne contredisent pas l'interprétation officielle quand il y en a une. Et s'il y en a une, c'est d'abord que ici Jésus, comme il le dit dans Matthieu chapitre 16, où il dit à Pierre hein, la même chose, que tout ce qu'il lira au ciel sera lié sur terre, tout ce qu'il lira, pardon, sur terre sera lié au ciel, tout ce qu'il délira sur terre sera délié au ciel. Et ici, c'est le même ordre d'idée. Donc ici, Jésus s'adresse aux apôtres, donc aux évêques. Les évêques sont les successeurs des apôtres. Donc l'Église ici, c'est l'interprétation officielle, l'Église a ce pouvoir que Jésus lui donne de remettre les péchés ou de les maintenir. Donc nous avons ici la confession. La confession trouve son origine dans ce passage. C'est aussi une manière de nous dire que la Bible trouve son actualisation. C'est-à-dire que c'est toujours la parole de Dieu première, mais suivant les époques, elle trouve son actualisation ou son mûrissement dans ce qu'on appelle la tradition, le magistère. L'Église, par exemple, dans la Bible, ce n'est pas marqué, pas de fécondation in vitro, pas de ceci, pas de cela, mais l'Église interprète, en utilisant la parole de Dieu, les tenants, les aboutissants, les conséquences en fonction des nouvelles inventions, des nouvelles technologies qui arrivent. Et donc, ce que l'Église déclare licite est licite, ce qu'elle déclare illicite est illicite. C'est l'interprétation ici. Mais il y a une interprétation plus personnelle, qui ne contredit en rien l'interprétation que je viens de donner, qu'on va dire plénière. Vous avez ici, Jésus certes s'adresse aux apôtres, mais nous sommes tous disciples, tous apôtres, Matthieu chapitre 16. Quand Jésus dit à tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, lui seront maintenus, tout homme à qui vous maintiendrez, à qui, oui, et tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis, c'est à nous qu'il le dit. Nous avons, nous chrétiens, et pas besoin d'être évêque, cette responsabilité d'abord du pardon. Si nous ne pardonnons pas la personne, nous l'enfermons, déjà dans un sens simplement psychologique, hein, nous l'enfermons dans un schéma, dans un cliché qui rend toute relation impossible. Si nous lui pardonnons, eh bien nous ouvrons la relation et la personne n'est plus maintenue, n'est plus enfermée dans ce schéma. Entre parenthèses, il n'est pas besoin de penser que de péché, mais enfin que de rancune, mais quand on voit l'astrologie ou d'autres choses qui enferment les gens dans des catégories ou nos jugements, il faut se méfier. Le chrétien ne peut pas être celui qui enferme les gens dans des clichés, dans des catégories, dans des boîtes. Parce que nous, chrétiens, nous savons que même si une personne a des défauts, en Jésus, il y a toujours espoir que par son esprit, justement, cette personne change, comme nous-mêmes, nous pouvons changer. Ensuite, c'est une manière aussi de nous dire que nous avons la responsabilité d'intercéder pour nos frères. Parce que quand nous les voyons pécher, quand nous les voyons loin du Seigneur, si nous nous en lavons les mains et nous ne prions pas pour eux, et c'est aussi dans le livre d'Ézéchiel, nous sommes responsables du fait qu'ils sont maintenus dans leur état de péché. Et quand nous prions pour eux, et quand nous essayons de les amener à Jésus par notre prière, par notre amour, qui se manifeste d'abord dans la prière, qui se prolonge par un amour aussi, disons, plus matériel, eh bien, nous remettons leur péché, parce que nous sommes comme un catalyseur de l'amour de Dieu, de l'Esprit Saint qui passe de nous à eux. Et donc, c'est une manière pour eux de ne plus être maintenus dans leur état de péché. Est-ce que nous en sommes conscients? Prions-nous pour nos frères. Très souvent, et ça c'est un danger, nous chrétiens, nous nous sentons meilleurs que les autres. Et plutôt que de prier pour nos frères, qui est déjà la première source d'évangélisation, nous les jugeons. Nous les maintenons au lieu de les libérer. Et Jésus ne nous a pas donné l'Esprit Saint pour ça. Donc soyons bien conscients de notre responsabilité d'intercesseur et d'évangélisateur. L'évangélisation est le meilleur remède contre le jugement des autres. Parce que plutôt que de voir en un frère quelqu'un qui est moins bien que nous, hein, c'est Luc chapitre 10, me semble-t-il, où vous avez le pharisien qui est très fier de lui. Moi, je ne suis pas comme ce publicain, etc. Le publicain qui dit, Seigneur, pardonne mes péchés. Jésus dit que c'est le publicain qui est justifié. Eh bien, si nous voulons ne pas avoir cette attitude de pharisien, où nous sommes meilleurs que les autres et nous jugeons, eh bien, il nous faut demander l'esprit de Jésus, cet esprit qui nous donne d'avoir ce désir de sauver les âmes, par notre prière, par notre amour. Comme le dit Paul, il est prêt à tout, se faire tout à tout le monde pour en amener ne serait-ce que quelques-uns au Christ. Eh bien, c'est ça, le véritable amour. Et cet amour doit se traduire, comme dit Jésus aussi dans Matthieu chapitre 25, j'avais eu faim, on lui donnait à manger, etc. On pense à la faim matérielle, c'est ça. Bien sûr, mais ça doit aussi se traduire par le fait que les gens ont besoin de notre prière, ils ont besoin de notre enseignement, si, ils sont assez ouverts, mais au moins de notre prière et de notre témoignage en actes et éventuellement paroles s'ils sont plus ouverts. Mais nous ne devons pas nous en laver les mains et les juger, parce que dans ce cas-là, nous les maintenons dans leur péché et nous en sommes responsables. Voilà, c'est une interprétation qui est tout à fait conforme à ce que dit la parole de Dieu. Donc, si je résume, nous sommes le Christ est là pour nous libérer. C'est dans les temps de prière que justement nous trouvons ce regard juste qui nous montre que le Christ est au milieu de nous. Il est au cœur de nos combats, au cœur de nos tourmentes intérieures, au cœur de nos dépressions, au cœur de la vie de nos frères, au cœur de ce monde. Mais qu'il y a un temps de latence, hein. Ce monde entre les deux venues du Christ, eh bien, il y a un temps de latence. Le monde visible avant que nous allions de l'autre côté, hein, que nous allions au ciel, c'est un temps de latence, mais très utile, car le Christ y travaille. Quand nous prions pour nos frères, quand nous prions pour tel ou tel défaut par rapport à nous-mêmes, et quand nous faisons les efforts, etc., eh bien, quand rien ne se passe en apparence, c'est normal, c'est le mode d'action du Christ, ce mode d'amour qui a fait qu'il a eu le côté transpercé. Et ses mains clouées. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager sur ce texte. Alors je vous propose de prier maintenant si vous voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire vôtre cette prière. Seigneur, apprends-nous à saisir l'importance qu'il y a de nous consacrer des moments de prière pour toi, ces soirs du premier jour de la semaine. Oui, donne-nous cette vision dans la prière, que tout se joue dans l'invisible. Oui, ouvre nos yeux à ta présence, Seigneur. Apprends-nous que tu es vraiment au milieu de nous. Et vraiment, Seigneur, donne-nous cette paix. Cette paix qui trouve sa source dans le fait que nous comprenons mieux que tu agis lentement mais sûrement, et que c'est l'amour qui gouverne ton mode d'action, car, comme le dit ta parole, tu es amour. Et Seigneur, apprends-nous que cet amour, c'est justement la garantie de ton efficacité, et que, bien loin de nous décourager, apprends-nous la patience et la persévérance. Et enfin, Seigneur, fais de nous des intercesseurs et des évangélisateurs, oui, remplis de ton Esprit Saint. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, cher internaute.